Octave Mirbeau, Dingo. Au professeur Albert Robin, témoignage d'affection et de reconnaissance. Octave Mirbeau. Chapitre 1. Il y a quelques années, exactement 9 années, 1 mois et 5 jours, la veille de Pâques, au matin, Vincent Péqueux, dit Laqueux, qui fait le service des messageries entre la gare de Courtoise et le village de Ponteil en Barcy, où j'habitais alors, me livra, venant de Londres, une boîte. De sapin grossièrement barbouillé de noir, son couvercle percé de 2 ouvertures grillagées, cette boîte avait un aspect funèbre. Volontiers, on l'eût prise pour un menu cercueil d'enfant, ou pour un capot défraîchi d'automobile, ou encore pour un de ces consternants emballages dans lesquels les horticulteurs japonais expédient leurs pivoines en Europe. Pendant que j'examinais avec méfiance ce curieux objet, Vincent Péqueux, dit Laqueux, me présenta une feuille et une sorte de registre ouvert. « Tenez, signez-la, » fit-il. « Le port est payé, tout est payé. Moi, avec votre permission, je vais dire 2 mots à la cuisinière, hein ?» Il me laissa ses paperasses. Bien que la journée commençât à peine, il était déjà très gai. Pas tout à fait ivre, mais en bonne voie de le devenir. « Oh !» se rappela-t-il soudain, « j'ai encore pour vous, là-bas, à la gare, des poules. Ma foi, oui, 3 forts paniers, vous savez, et pas de place sous la bâche. Ma foi, non. Je vous les apporterai ce soir, ou demain. Ah, sacristie, pas demain, c'est Pâques. Enfin, un de ces jours. J'irai recommander au chef des bagages de leur donner à boire et à manger. » Un bon garçon, je lui offrirai, sur votre compte, un petit verre pour la peine, pas vrai? Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiétais pas, du moins, je ne m'inquiétais pas de cela. Fasciné par cette étrange boîte, je cherchais ce qu'elle pouvait bien contenir, et vraiment je ressemblais à ce paysan qui, ayant reçu par hasard une lettre, la considère avec terreur. La tourne, la retourne, la soupèse dans sa main, la montre à tous ses voisins, s'écrie « Tiens, tiens, qu'est-ce qui m'envoie une lettre ? Ah, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?» et ne se décide pas à l'ouvrir. Moi non plus, je ne pouvais me décider à ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. La feuille d'envoi mentionnait bien ceci « Chien vivant ». Mais, en plus de mon nom et de mon adresse, elle n'indiquait que le nom et l'adresse de la maison anglaise de messagerie chargée de l'expédition. Rien d'autre que des rangées de chiffres en diagonale. Ici et là, des opérations d'arithmétique auxquelles je ne comprends jamais rien. Et puisque tout était payé... Tout était payé, sans doute. C'est ce qui me paraissait le plus louche. De qui me venait ce chien ? Et pourquoi un chien ? Un chien qu'on insistait à qualifier de « vivant ». Quelle bêtise ! Je me pris à crier tout à coup en levant les bras au ciel. Il n'eût plus manqué, parbleu, que ce chien fût un chien crevé. J'étais intriguée, un peu énervée. Enfin, je n'avais commandé de chien à personne. Je n'en attendais de personne. Je n'en voulais de personne. Un de ces merveilleux chiens d'Irato, en porcelaine blanche, à la bonne heure. Mais un vrai chien, un chien en chair et en os. De sombres histoires de résurrectionnistes me revinrent à l'esprit. Je pensais, si j'allais trouver dans cette boîte, au lieu d'un chien vivant, des tronçons de corps humain. Mon imagination ne m'en fait jamais d'autre, des tronçons de corps humain. Je frissonnais pour la forme, et aussi parce qu'il m'est agréable de frissonner. Mais, repoussant aussitôt cette idée romantique et peu cordiale, je finis par ne plus redouter, au pire, qu'une de ces mystifications macabres, où excellent, après boire, certains Anglais inventifs et lugubres. Humoristes, comme on dit. J'ai horreur des mystifications, et je manque de l'esprit qu'il faut pour en rire. Je me disposais donc à refuser sévèrement ce colis et la chose morte ou vive qu'il contenait. Lorsque Vincent Péqueux, dit la queue, revint goguenard de la cuisine, où, pour entretenir sa gaieté, il était allé boire son verre traditionnel de vin blanc. « Patron, s'écria-t-il, vous savez, j'en retiens un petit. » Et, riant, il essuya ses moustaches au revers de cuir de sa manche. Malgré ce geste poli, l'atmosphère tout autour de lui était imprégnée d'une forte senteur d'ail et d'alcool. Je ne voulus pas rendre ce loustic plus longtemps témoin de mes tergiversations. Sans contrôler la contenance de la boîte, j'apposai ma signature sur le registre que je lui rendis. Il approuva. « Bon, quant à vos poules, ne vous tourmentez pas. Un jour ou l'autre, vous les aurez. On les a rangées à l'ombre sur le quai. Elles regardent passer les trains, comme les promeneurs du dimanche. Ça les distrait un peu, quoi. Dites donc, patron, mon petit pourboire, s'il vous plaît. » Je lui donnai quelques sous. « Ça va bien. Ne vous tourmentez pas. Allez. » Il partit. Et vite, je déclouai le couvercle de la boîte. Je n'étais pas très rassurée. Les outils tremblaient dans ma main. Bientôt, j'aperçus, gisant sur de la paille hachée, sorte de boule fauve et molle, un très jeune chien, ou plutôt un tout petit chiot, si jeune, si petit, qu'il n'avait pas la force de se tenir sur ses pattes. Je le délivrai de son cachot. Dieu, qu'il était grotesque à voir! Figurez-vous un museau de vieux petit fonctionnaire. Tenez, d'employé aux contributions. Tout plissé de mauvaise humeur. Une tête beaucoup trop grosse, beaucoup trop lourde pour le corps. Un corps vaguement ébauché. Les yeux à peine ouverts, à peine visibles dans la fente des paupières boursouflées. Sur le ventre rose, plein, glabre, tacheté de roux, un reste séché de cordon ombilical se tortillait comme un ver. Un chien au maillot, si j'ose m'exprimer ainsi. J'étais furieux. Soit ironie, négligence ou routine, l'expéditeur, en guise de provision de bouche pour le voyage, peut-être en guise de hochet, avait dérisoirement placé à portée des dents et des pattes du pauvre animal, qui ne pouvait jouer ni manger, et qui d'ailleurs n'avait pas de dents. Un formidable os de gigot, luisant comme un morceau d'ivoire, et une énorme tranche de pain, aussi dure que du ciment. Il paraissait affamé, et, plus encore qu'affamé, indigné par l'inconvenance d'un régime alimentaire tel qu'on le pratique dans les maisons de bienfaisance. Dois-je noter, pour compléter la comparaison, que les parois et le fond de la boîte étaient tout souillés de déjections. Il s'en exhalait une odeur écœurante de lait aigre, de sérosité fermentée, particulière aux enfants charitablement élevés dans les crèches. Dès que je l'eus caressé, oh, bien timidement, et cela me fut désagréable, car j'ai une répulsion physique invincible pour tous les nouveau-nés. Il se mit à trembler, puis à pousser des plaintes et des cris de protestation. Des cris de protestation, je dis bien. Cette précocité si rare m'émerveilla. Respectueusement, je le déposai sur le sol, où ses cris redoublèrent. Et vraiment, je ne pus m'empêcher de rire de ses mines revendicatrices, de son tapage irrité. Croyez bien qu'il n'y avait nulle moquerie, en dépit du ridicule équipage dans lequel m'arrivait ce petit pensionnaire. mais de la sympathie et de l'admiration pour lui. Je l'avoue, l'idée seule que cet embryon protestât déjà et si spontanément, et sans aucune littérature, contre la stupidité, la malignité, la malpropreté des hommes ou contre leurs caresses, m'enflamma. Oui, j'avoue que ce pessimisme, en quelque sorte prévital, me réjouit dans mon pessimisme invétéré et fit que je m'intéressais davantage au sort de cet être larvaire qui, encore noyé dans les limbes et sans l'avoir jamais vu, allait entrer dans le monde avec une conception de l'humanité si parfaitement conforme à la mienne. Spectacle émouvant et nouveau. Un savant, je dis bien entendu un vrai savant, qui en eût été le témoin averti, n'eût point manqué d'écrire sur son carnet de notes cette observation psychosystématique, capable de révolutionner toutes nos idées sur les chiens, et aussi, je pense, sur les hommes. Le chien naît misanthrope. Quant à notre petit animal, il ne consentit à s'apaiser que lorsqu'on lui eut apporté une jatte de lait frais, qu'il se mit à boire avec une avidité d'ivrogne, si tant est qu'il existe des ivrognes qui boivent du lait avec l'avidité d'un chien. Le surlendemain seulement, je reçus une très longue lettre explicative. Elle était signée « Sir Edward Herpet ». Ah, comment n'avais-je pas tout d'abord songé à Sir Edward Herpet ? Mais je songe si peu à lui. Sir Edward Herpet est un de mes amis, un ami de tout repos, un de ces excellents, de ces précieux amis, comme j'en ai beaucoup à Paris, beaucoup à Londres, Rome, Berlin, New York, et aussi, je suppose, à Calcutta. Entendez qu'il ne me fatigue pas de son amitié et que je ne l'accable pas de la mienne. À peine si je le connais. Je le connais si peu que, s'il m'arrive, oh, une fois tous les 5 ou 6 ans, de penser à lui, il ne m'arrive pas toujours de reconstituer son visage. Un visage, autant qu'il m'en souvienne, très régulier, très rouge, entièrement rasé, sans la moindre expression caractéristique par où il puisse se distinguer d'un autre visage ami. Un de ces froids portraits britanniques qu'on voit, toujours le même, sous les dénominations les plus diverses, dans les magazines illustrés de la plus grande Bretagne. Un soir de mai, je l'ai rencontré à Londres, dans un club de vieux savants en tout genre, et ce que je me rappelle le mieux de lui, c'est que ce soir-là, nous nous sommes grisés très confortablement, en l'honneur de la science. Voici que, grâce à une photographie fortuitement retrouvée par mon valet de chambre au fond d'un tiroir, le visage si impersonnel de mon ami maintenant me revient et se reprécise à quelques détails près. Mais non, pas si impersonnel que je le croyais. Un charmant garçon, vraiment, ce qu'on appelle dans les bars de chez nous un véritable gentleman. Des cheveux blonds collés au crâne et séparés par une raie médiane qui les divise en 2 parties symétriques, également plates et luisantes. Des yeux légèrement bridés dont on ne sait s'ils sont clairs, foncés, gais ou tristes. Des narines pincées au bas d'un nez droit et fin. Une lèvre supérieure retroussée sur des dents pas très blanches et dont quelques-unes sont baguées d'or. Sir Edward Herpet, dont la tête petite se perche sur le col comme un gobe-mouche au haut d'un roseau, est exagérément haut de jambes, et ses bras maigres d'orang-outan, attachés par de gros nœuds à des épaules tombantes, se terminent par 2 fortes mains couleur de brique. Linge éblouissant, vêtements amples, coupés avec chic, bottines épaisses en cuir jaune sortant d'un pantalon relevé jusqu'à la cheville, courte badine en jonc de java. Les journaux disent d'Herpette qu'il est très élégant, et d'une élégance strictement appropriée à ses occupations du moment. Il est aussi très entraîné à tous les sports, cela va de soi. Boxe, golf, tennis, ski, toboggan, yachting, etc. Et bien qu'il vive dans les courants d'air les plus violents, qu'il soit presque toujours nu-tête, surtout quand il pleut et que le vent souffle en cyclone, des casquettes pour toutes les circonstances de la vie d'un Anglais. Pour le moral, voici. Amateur de bibelots chers et laids, de collections scientifiques et anecdotiques, curieux de toutes les excentricités coloniales. Il passe pour très riche, très curieux et très savant. Pas un coin du globe qu'il n'ait exploré, comme tous les Anglais d'ailleurs. En ce moment, je sais qu'il explore les cocotiers de Monte-Carlo. Oui, je le revois. Il a la manie des lointaines études biologiques, linguistiques, sismographiques, océanographiques, anthropologiques, je ne sais plus trop. Pourtant, on m'a cité le titre d'un de ses ouvrages, « La dentition des grands singes », grâce à quoi on pourrait peut-être spécialiser la nature de ses recherches. Ouvrage considérable, textuellement copié dans Huxley. Or, après un silence de 7 années, Sir Edward m'annonçait dans sa lettre ceci. Il débarquait d'Australie. Il en rapportait, outre un gros travail économique, c'est peut-être un économiste, sur la production agricole, minière, industrielle du groupement australasien, une chienne sauvage capturée par lui dans la brousse. Le soir même de son arrivée en Angleterre, cette chienne sauvage, capturée par lui, mettait bas clandestinement comme une pauvre domestique séduite. 6 petits chiens. Désireux de m'être agréable et pour se rappeler à mon souvenir, mon ami Herpette s'empressait donc de m'offrir un de ses petits chiens, le plus beau, pour mes Pâques. Il en offrait un autre, le plus beau aussi naturellement, à Sa Majesté Édouard VII pour ses Pâques. Un autre encore, toujours le plus beau, à je ne sais plus quel établissement zoologique. Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Hambourg ou Cologne, pour ses Pâques. Un chien de sa chienne pour nos Pâques. Non que Sir Herpette soit religieux ou anti-religieux, il a de l'élégance et il sait vivre, voilà tout. Avec une complaisance un peu lourde, il insistait sur l'originalité, la rareté, l'exceptionnelle valeur du cadeau, et me donnait ses renseignements édifiants. Ne connaissant pas très bien l'anglais, surtout l'anglais d'Edward Herpette, je l'ai traduit comme je peux. « Je dois tout d'abord vous prévenir, » écrivait cet obligeant ami, qui, non content de m'envoyer un chien, poussait la bonne grâce jusqu'à me conter son histoire. M'expliquer son mécanisme et la manière de m'en servir. Je dois vous prévenir que ces chiens ne sont pas, du moins ne sont plus, à proprement parler, des chiens. Par une habitude séculaire, et aussi, je suppose, par une illusoire ressemblance, ils tiennent toujours un peu du chien, un peu du renard de Guinée, mais plus grand que ce dernier. Ils tiennent surtout du loup de Russie. À ce détail près que, n'ayant ni son pelage gris ni son échine basse, ils rappellent, sans l'excuse de la faim et même sans un goût très violent pour la viande, sa férocité carnassière. Il n'est pas douteux qu'ils aient été réellement, complètement, des chiens autrefois. En ces temps ténébreux où la science balbutiait ses timides essais de classification. Heureusement, de même que les modes, les méthodes changent, les moyens d'investigation se perfectionnent. Chaque jour, avec la vie plus profondément pénétrée, la science évolue, se transforme, nous transforme, et son domaine sans cesse s'élargit. Rien n'est immuable. Tel qui était poisson jadis est devenu oiseau. Tel qui fut singe est aujourd'hui pape, roi, ministre, général ou philosophe. Depuis 60 ans, il semble absolument démontré que ces chiens, qui auparavant étaient bien des chiens, ne sont plus des chiens, plus du tout. Des naturalistes très respectables, et ma foi, qu'est-ce qu'ils risquaient ? Ils me citaient l'infortuné Gray, Nering, Pelzain, Hardwick et d'autres. Prétendent que c'est une espèce intermédiaire, quoique autonome, entre le chien et le loup, et qu'on nomme le dingo. Opinion adoptée au fameux congrès de Palmerston, malgré de très acharnées et très rares dissidences sans aucune autorité, par conséquent sans la moindre importance. Ne nous y arrêtons pas. Physiologiquement, histologiquement, ostéologiquement, odontologiquement, paléontologiquement, historiquement, je dirais même philologiquement, la question est tranchée. Ni chien, ni loup. Des dingos. J'ai appris à Melbourne d'un Hollandais, professeur de langue malaise, que dingo est un vocable nègre qui précisément signifie « ni chien, ni loup ». Avouez que voilà une langue ingénieuse, concise, pittoresque, et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Vous aurez donc un dingo, cher ami. Ce qui est très confortable, croyez-moi. Je puis vous le prédire avec certitude, les dingos seront tout ce qu'il y a de mieux porté à notre prochaine saison de Londres. Désormais, on ne pourra plus prétendre à être un véritable gentleman si l'on ne promène derrière soi, au lieu d'un petit fox irlandais, un dingo. Et je vais vous confier une chose que je n'ai encore dite à personne. Sa Majesté Édouard VII a daigné me promettre qu'elle remplacerait désormais, par son dingo, cet éternel et insupportable Lord Ponsonby, qui la suit partout comme un chien. Ici, mon ami Herpète voulait bien quitter les régions ingrates de la science et ses lourds adverbes pour s'élever sur des adjectifs ailés jusqu'au sommet du plus pur lyrisme. « Ces animaux, continuait-il, sont extraordinaires et magnifiques. Vêtus d'or et de feu, avec des dessous de bistre clair, hardis, fiers, très souples, les muscles puissants, la mâchoire terrible, la tête allongée que surmontent deux oreilles pointues toujours dressées, la queue touffue traînant à terre majestueusement comme un gros boa de zibeline, ou bien tout à coup, sous l'empire de la passion, se relevant en panache éclatant. Ils sont la gloire du jardin zoologique de Melbourne. Ils sont aussi la terreur de l'élevage dans les prairies australiennes. Par les nuits sans lune, par les froides nuits sans lune de ce curieux continent, il n'est pas rare que les dingos se réunissent en bandes, 10, 15, souvent moins, jamais plus. En quelques heures, ils abattent 300, 500 moutons et autant de bœufs. Cela pour le plaisir, par gaieté naturelle, en artistes du massacre, comme des hommes. Mais plus artistes que les hommes. Conséquemment plus généreux, plus désintéressés, ils ne mangent pas leurs victimes. Étant d'un naturel très sobre, ils se contentent des petits lapins marsupiaux qui minent le sol australien et de ces minuscules kangourous qui, à chaque pas, sautillent dans l'herbe, comme les sauterelles dans nos prés. On m'affirme qu'en excellent tacticien, avant de se jeter sur les troupeaux, il se rue sur les chiens, et même sur les hommes qui les gardent. En un tour de gueule, ils ont vite fait de les mettre hors de défense et de combat. Après quoi, ils peuvent travailler, sans être dérangés, tout à leur aise. Discrétion admirable que devraient bien imiter nos petits fox terriers, si bruyants, si agaçants et si délicieux. Les dingos n'aboient jamais. Ils ont déjà planté leur croc au bon endroit dans la gorge de l'ennemi, que celui-ci ne les a pas entendus venir, qu'il n'a perçu ni un frôlement dans les feuilles, ni le moindre bruit d'herbe foulée. Ils ont le secret, presque surnaturel en vérité, de rendre à leur passage plus silencieuse la brousse épaisse et serrée, plus muet le sol sous le bond de leur course rapide, ardente et légère. De leur présence toujours cachée, de leur invisible cheminement, jamais aucune trace, même d'odeur, même de son, ce qui en fait les plus redoutables d'entre les hôtes de ces bois. Il est vrai que les dingos sont, avec les colons, les seuls animaux féroces de ces contrées pacifiques, et, veuillez le remarquer, c'est très important, les seuls aussi, avec les colons toujours, ai-je besoin de le dire, qui n'aient pas une origine marsupiale. Je vous répète donc que les dingos n'aboient jamais. Ils hurlent, et seulement dans les circonstances graves de leur vie aventureuse et forcenée. Je vous assure, cher ami, que ce hurlement qu'il m'a été donné deux fois d'entendre à la nuit tombante, au bord du désert rouge, alors que le vent faisait siffler comme des locomotives l'écorce arrachée des eucalyptus, et que dans les arbres le lamping jacasse riait de son rire démoniaque, est mille fois plus sinistre que le hurlement des loups. J'ai connu là des minutes d'effroi que plus jamais je ne pourrai oublier. J'aurais bien voulu savoir comment, avec sa lourdeur européenne, mon ami Sir Edward Herpet avait pu surprendre et capturer de si subtils animaux dans cette brousse de spinifex, impénétrable à un lapin, même à un anglais. Par malheur, modestie ou lacune, la lettre n'en disait mot. Quelques phrases encore que je passe, quelques renseignements insignifiants que je supprime, et la lettre reprenait ainsi son cours imperturbable. L'occasion me vint, plus vite que je l'eusse souhaité, de vérifier par moi-même la plupart de ces détails biographiques. Au retour, durant la traversée, ma chienne, je continue à l'appeler hérétiquement une chienne pour la clarté de ses notes indispensables. Ma chienne, donc, trompant la vigilance du boy malais à qui je la confiais durant la nuit, se précipita un matin, il pouvait être 3 heures du matin, vers l'arrière-pont où se trouvent les cages à poules et le parc à moutons. On la surprit au moment où, ayant exterminé toutes ses bêtes en un rien de temps, elle achevait de les aligner sur le plancher par espèce et par rang de taille, l'une contre l'autre, méthodiquement, ainsi qu'on fait sur la pelouse d'un parc pour le gibier abattu le soir d'une chasse. Le tableau, mon cher. Ils connaissent le tableau. Des bêtes. Ils pratiquent nos plus anciennes, nos plus élégantes habitudes de vénerie. Des sauvages. Comme c'est troublant, n'est-ce pas? Et surtout, comme c'est important pour l'histoire des origines de la civilisation. Le tableau. Ah, je ne voulais pas y croire. C'était trop imprévu. Je ne voulais pas y croire. J'étais tellement ahuri par cet incident que je ne démêlais pas bien encore les idées qu'il devait me suggérer par la suite. Vous pensez si cet intermède cinégétique divertit les passagers. Ce qui les divertit plus encore, je dus payer une indemnité de 455 livres à l'administration du bord. Car, j'ai oublié de vous le dire, outre les poules et les moutons, ma chienne avait étranglé quantité d'oiseaux bizarres, précieux, enfermés dans de solides cages d'osier et destinés au Zoological Garden de Londres. Entre autres, un nichetiette jocovuru, oiseau de proie rarissime, qui pointe une espèce de longue chevelure en éventail, un bec charnu de juif, et une énorme barbe broussailleuse et sale, qui font ressembler cet étrange animal à Saint Jean-Baptiste. Mon premier mouvement avait été, je l'avoue, de la colère et de l'embêtement. Je me reprochais fort mon imprudence. Mais quoi, cette gienne était si douce, si caressante, si gentille avec tout le monde. Elle faisait la joie du bord, en particulier des femmes, à qui toute la journée je devais raconter l'histoire, les mœurs des dingos, les péripéties scientifiques par où ils avaient passé. Cela me rendait populaire. Ma foi, je la laissais libre d'aller et de venir sur le pont. Comment prévoir une telle aventure ? J'aurais dû lui mettre une muselière, objecta le capitaine. Fort bien, eût-elle accepté une pareille entrave à sa liberté ? Rien n'est moins sûr. Et puis, tout d'un coup, je ne regrettais rien. Non seulement je ne regrettais rien de ce qui était arrivé, j'en éprouvais une fierté infinie, car enfin, je compris que ce jour-là, j'avais fait une observation scientifique capitale. Herbert Spencer, en juillet 1873, découvrit dans la danse du scalp des Phygiens l'origine de la musique, du drame et même de la biographie. La même année, dans je ne sais plus laquelle des pratiques fétichistes et anthropophagiques des mêmes Phygiens, il découvrit l'origine de la carte de visite. C'était un record. Moi, je venais de découvrir, dans le geste d'un chien, quelque chose de bien plus considérable au point de vue sociologique. Je venais de découvrir tout simplement l'origine du tableau de chasse. Et je pensais que je n'avais pas payé assez cher cette gloire. À la relâche que nous fîmes à New York, je m'empressai d'adresser à mon club une triomphante dépêche par laquelle j'annonçais que j'avais battu le record d'Herbert Spencer. Mais vous savez, mon ami, la jalousie des savants. Venait ensuite un passage tout de mélancolie. Hélas, les jours des dingos sont comptés. Bientôt, cette merveilleuse race n'existera plus. Elle a déjà complètement disparu de la terre de Van Diemen. Dans l'Australie proprement dite, elle va diminuant d'année en année. Les colons, qui ont presque entièrement ravagé ces incomparables forêts d'eucalyptus, uniques dans le monde, et poussés par une folie sauvage de destruction, détruit cette innocente curiosité botanique, le capari, arbre paradoxal, rigolo, comme vous dites, je crois, en français, d'où coule, des blessures qu'on fait à son écorce, une espèce de gomme qui ressemble au macaroni et en a le goût. Ces affreux colons mènent contre les dingos une guerre exterminatrice, la même que les Yankees firent aux peaux rouges. Il faut regretter que dans notre siècle, la beauté cède partout le pas à l'utilitarisme imbécile et passager, et qu'un des plus intéressants exemplaires de la zoologie soit menacé de disparaître pour permettre à de gros hommes ignorants, sans délicatesse, de frigorifier encore plus de moutons et de conserver dans des boîtes en fer blanc de plus innombrables culottes de bœuf. En vérité, je ne sais pas où les savants, disons les hardis pionniers de la science, pourront aller désormais, sur un globe dépeuplé de sa faune et rasé de sa flore, surprendre les mystères de la vie. Tenez, supposons un instant que les dingos eussent été complètement détruits quand je vins en Australie. Eh bien, la science serait peut-être à jamais privée de cette découverte, l'origine du tableau de chasse, dont j'aime à croire que vous comprenez toutes les conséquences, malgré le silence intéressé qui se fait autour d'elle. Quant aux dingos, dans quelques années, nous ne les retrouverons plus que dans les jardins d'acclimatation, où ils perdent très vite de leur magnificence originelle, où s'appauvrissent, s'étiolent, jusqu'à s'effacer totalement les caractères spécifiques d'une race qui n'avait pas dit son dernier mot et qui n'était point au bout de son histoire. Alors, les dingos redeviendront des chiens, comme tous les chiens domestiques. Quelle pitié! Imaginez leur navrement, imaginez le mien, si un beau matin je me réveillais dans un arbre, le corps entièrement velu, avec quatre pattes et une queue prenante, en train d'éplucher une orange ou de grignoter une noix. Infortuné dingo. À travers des grillages, dans des niches ou sur de mornes pelouses désherbées, nous les verrons, dépouillés de leur belle forme et de leur fière allure, avec des oreilles cassées et des queues amoindries, malades, galeux, stériles, déchus jusqu'au jour prochain où nous ne les verrons plus du tout. Ces choses-là me font toujours un peu pleurer. Croyez-vous que, parfois, je m'attendris sur la disparition du plésiosaure et que, je vais vous paraître un peu trop sentimental, excusez-moi, je regrette, comme un ami qui a mal tourné, ce fameux diplodocus devenu, ainsi qu'un tableau de M. Cormon ou une statue de M. Frémier, un vulgaire objet de musée. C'était bien la peine qu'ils aient été une si prodigieuse mystification de la nature. Heureusement, il nous reste encore quelques survivances humaines, sur lesquelles nous pouvons étudier avec fruit les formes de la préhistoire. Heureusement aussi, et mon désir de vous plaire s'en exalte, tout cela donne du prix au dingo que je vous envoie. Élevez-le bien, surveillez-le bien, étudiez-le bien, gardez-le bien et aimez-moi. Pour ne pas me laisser sur une impression trop triste, ce délicat mais prolixe ami plaçait ici ingénieusement un souvenir qui vous amusera. Cela me rappelle ce chien sauvage de l'Alaska. Vous savez, ces chiens trapus, touffus, tout noirs, dont le pelage est huileux et laineux, et dont l'encolure épaisse se recourbe comme celle des chevaux frisons. Les connaissez-vous? J'en sais peu d'aussi sympathiques et industrieux. Je ne suis pas très sûre que ces chiens soient tout à fait sauvages, mais j'affirme qu'ils sont tout à fait des chiens, aucun congrès n'ayant jusqu'ici décidé qu'ils puissent être autres. Curieuse particularité anatomique, on remarque à la jointure postérieure des os de leur crâne un énorme muscle bombant, extrêmement mobile, qui se tend, se détend, s'actionnent comme des bielles et leur servent à soulever dans la gueule des poids très lourds. Ce qui n'est pas moins curieux, ils ne vivent que de poissons. On raconte qu'ils creusent la glace jusqu'à l'eau. Accroupis des journées entières au fond de leur trou transparent, le nez au ras du courant, ils attendent le passage d'un brochet, d'une carpe, d'une truite, d'un saumon, qu'ils attrapent sans jamais les rater, avec la dextérité surprenante d'un phoque. Plus adroit qu'expert Spencer, qui fut, en même temps que le plus fameux philosophe, le pêcheur de saumon le plus fameux du Royaume-Uni, ils prennent de la sorte jusqu'à 200 kilos de poissons par jour. Ils en font d'énormes provisions qu'ils gardent dans un autre trou creusé de leurs pattes, bien à l'abri de toute corruption aérienne. Et ils viennent en manger aux heures régulières de la faim. Malheur à ceux, hommes ou bêtes, qui découvriraient leur cachette et tenteraient de la cambrioler. Depuis longtemps, je désirais posséder un de ces animaux extraordinaires. Je fis part de ce désir à mon correspondant de là-bas, où j'ai quelques intérêts. 6 mois après, un beau jour, j'appris par un message administratif qu'un chien m'attendait à la gare. J'allais, comme il convient à un tel personnage, le recevoir solennellement. Son accueil fut simple, cordial, des plus empressés. En 1 minute de caresses et de causeries familières, venant de l'Alaska, il comprenait fort bien l'anglais, naturellement, nous devînmes aussitôt les meilleurs amis du monde. Je n'en avais pas moins apporté, par prudence, une forte chaîne et un solide collier, que cet animal libre se laissa mettre au cou très docilement. Je n'étais pas fâchée de lui faire aux débeautés les honneurs de la capitale. Je voulais surtout, dès le début, l'intimider par notre organisation policière. Nous rentrâmes à pied, flânant dans les rues, dans les squares, dans les parcs, comme 2 paisibles bourgeois. J'étais ravie du chien, et le chien paraissait ravi de moi. J'admirais son caractère calme, souple et gai, et la force spontanée de ses facultés d'assimilation. Rien ne l'étonnait. N'ayant pourtant jamais connu que les lacs gelés, les solitudes rocheuses et forestières couvertes de neige, nullement empruntées, il se montrait bien moins surpris qu'un paysan du Yorkshire au spectacle si brillant, si bruyant, si nouveau qu'il avait sous les yeux. Un régiment de Highlanders passa et ne l'effaroucha point. Dans un square où une grande foule s'était assemblée, il entendit une très vieille femme, hissée sur un banc, qui prêchait à des eunuques du Soudan l'excellence des doctrines malthusiennes, et ne s'émut pas davantage. À tous les promeneurs que nous rencontrions, il semblait dire, en flairant leurs mollets, « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. » Nulle incongruité nulle part. Sa bonne humeur amicale, son urbanité faisaient sensation parmi les chiens, à qui, sans restriction de race et de sexe, il prodiguait abondamment les gestes courtois que vous savez, qui sans doute sont de tous les pays, comme l'amour. Une seule chose m'inquiétait. Comment nourrir cet ichthyophage? Je ne suis pas avare et ne mesure la nourriture à personne. J'avoue pourtant que l'idée de ne servir à ce monsieur que de la carpe ou du saumon m'ennuyait un peu. « Bah ! » me disais-je, « tout cela s'arrangera. » Comme nous passions dans Old Bond Street, devant un de ces magnifiques étalages à poissons qui sont l'orgueil de Londres, comme les architectures de saucisses et de jambons sont l'orgueil des cités allemandes, je ressentis tout à coup au poignet et dans le bras une secousse violente, si violente que je crus qu'on me les arrachait. Je poussai un cri de douleur, et dans le même temps, car j'avais lâché la chaîne, je vis mon chien qui avait bondi sur l'étal, entre deux icebergs de belle glace blanche, engueuler tel une plume un gigantesque saumon d'au moins 30 livres, s'enfuir, disparaître avec sa proie, son collier, sa chaîne, au coin d'une rue. Plus jamais je ne l'ai revu. La police fouilla Londres, fouilla la banlieue de Londres, fouilla l'Angleterre. Rien. Ah, ne me parlez pas de Sherlock Holmes, qui échoua piteusement dans ses recherches, lesquelles finirent par me coûter 1500 livres. Aucune trace, nulle part, de mon chien. Le seul résultat de tout ceci, c'est que, malgré les embrocations, tous les remèdes de cheval qui me furent appliqués, je restai avec un bras inerte et douloureux durant 4 longues semaines. Au club, Sir Thomas Lavenet, qui a fait de si remarquables travaux sur le sens de l'orientation chez les pigeons voyageurs, m'expliqua, au moyen de graphiques et de diagrammes, que ce diable de chien, après de longs voyages, de port en port, de paquebot en paquebot, de randonnées en randonnées à travers les plus extravagants pays, était sûrement retourné dans l'Alaska. Je le crois. Ma foi, je le crois. Je le crois parce que Sir Thomas Lavenet est une autorité scientifique des plus respectables, et surtout parce qu'en fait de roublardise, de connaissance de la vie, d'habitudes civilisées, de notions géographiques, militaires, culinaires, policières, rien ne m'étonne plus désormais des chiens sauvages. Et revenant au dingo pendant 4 longues pages encore, Sir Edward terminait enfin son interminable épître ainsi. Au demeurant, gentil, d'humeur allègre, très doux à l'homme, pourvu que l'homme ne les embête pas. Comprenez-moi bien, ne les embête pas. Pendant que je lisais, non sans quelque effarement, cette lettre, le petit chien jappait à mes pieds et s'efforçait vainement de téter le bout de mes pantoufles. En dépit de son irritation à ne pouvoir traiter mes chaussures comme des mamelles nourricières, en dépit même de ses méfaits ancestraux, Et bien qu'il me fût surabondamment prouvé par tant de compétences scientifiques que ce chien n'était pas, du moins n'était plus, jusqu'à nouvel ordre, un chien, il ne m'effraya pas. D'abord, dans mes jours heureux, dans mes jours de soleil, je suis de ceux qui pensent que l'hérédité n'est pas un principe rigide, que beaucoup d'êtres vivants y échappent, qu'en tout cas elle peut être combattue victorieusement par l'éducation. Et puis, sans doute, comme voyageur, Sir Herpet exagérait un peu, et comme ami, il se plaisait à me mystifier. Et puis, ce petit chien était si petit, si petit. Vraiment, j'avais bien le temps de m'alarmer. Je l'adoptai donc définitivement et le baptisai aussitôt Dingo, du nom de sa race. Comme je procédais sommairement à cette cérémonie, une voix cria dans le jardin. « Patron ! Hé, patron !» Je reconnus la voix avinée de Vincent Péqueux, dit la queue. « Eh bien ?» demandai-je en me penchant par la fenêtre ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Je reçus cette réponse. « J'apporte vos poules. Il y en a 4 de crevées. Le coq aussi. Ne vous inquiétez pas. »